Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir suivi dans ce déménagement, mais qui nous permet une projection agréable. Merci. Alors voilà, nous en étions à, puisqu'une partie du cours est intitulée « Les origines du mazdéisme », nous nous sommes posé la question de savoir quel est l'état des choses dans les gathas au point de vue de ce qu'on a appelé dualisme et la stricte contextualisation des documents que nous possédons nous contraint à ne parler qu'en termes de liturgie et de rituel. Et nous avons détecté de cette manière une situation que j'ai définie par le terme d'antagonisme. Cet antagonisme est incarné, entre autres, par un groupe qui répond au nom de Daiva. Et nous avons tenté de définir quelles sont les caractéristiques de ce groupe dans le corpus gathique. Il s'agit, avons-nous pu constater, d'un ensemble global et anonyme de divinités secondaires, puisqu'elles sont à la fois sacrifiantes et objet et but du sacrifice, qui, eux aussi, demandent de sacrifier Ramazda, mais dont le sacrifice n'est pas agréé, pas dans les termes que nous avons vus. Alors, quel est le processus qui fait des daïvas, des dieux réprouvés, des sacrifiants réprouvés? Eh bien, ce processus a été expliqué dans le Yasna 36 et ce processus se reflète encore dans le Yasna 32.5. Dans le Yasna 36, le processus est le suivant. Premier point, les daïvas sont victimes d'une illusion, d'un leurre. Le verbe qui est répété en 32.5 est le verbe « dab ». En réalité, c'est un verbe de chasse, c'est un type de chasse, c'est la chasse au leurre, hein, ou à la pas, si vous préférez. Nous avons comme ça plusieurs termes, même si la chasse est très peu mentionnée dans l'Avesta, nous avons quelques verbes qui expriment les différents types possibles. La poursuite, pure et simple, la battue aussi, hein, avec crier autour pour dénicher l'animal. Donc, dab, ça, c'est le verbe qui désigne la chasse à la pas. Ils sont leurrés, ils sont victimes d'une illusion. Conséquence de cette illusion, ils ne font pas bien la différence entre les deux mainyu, vi, chi. En conséquence de quoi? C'est une chaîne conséquentielle. Hein, chaque chose, une chaîne causale. Ils choisissent var. Et ils choisissent la mauvaise triade. Pensée, parole, action. Ils choisissent la mauvaise triade. Alors, comme vous le savez, cause ultime, il y a le fameux déplacement dans l'espace. Il faudra quand même se poser la question. Ils courent vers une entité mauvaise qui, elle, est nommée, qui apparaît plusieurs fois et qui s'appelle Aishma. Aishma. On traduit normalement par fureur. C'est un daïva comme un autre dans l'Avesta récent. Ici, il semble avoir un autre statut, hein, Aishma. Il ne fait pas partie du groupe. Les daïvas courent vers lui, nous disent le Yasna 36. On traduit par fureur, mais il faut se méfier. Il faut se méfier, c'est une signification purement étymologique. À partir du latin « ira », qui lui-même pose d'ailleurs problème pour les latinistes du point de vue de l'étymologie, et le sanskrit « ishmin », avec un problème également. Bien, alors, l'effet de cette chaîne causale, c'est qu'ils entraînent les hommes dans leur erreur. Ils entraînent les hommes dans leur erreur, c'est ce que nous disent à la fois le Yasna 36 et 32.5. Aishma est toujours lié au Daiva, je fais la remarque en passant avant de venir à autre chose, ce qui fait que dans toutes les attestations de Daiva, le rapport est établi, soit avec Machia, hein, le nom péjoratif des hommes, soit avec Machia, soit avec Aishma, soit avec les deux. Aucune attestation d'Aïva n'est indépendante de l'une de ces deux notions. Alors, c'en est fini, n'est-ce pas ? C'en est fini pour le discours sur les Daïvas. Pourtant, nous n'en avons pas fini avec le pandémonium, car le Yasna 32, d'une certaine manière, est un pandémonium. Nous allons maintenant, la notion qui va prendre de l'importance, qui va être traitée, c'est celle d'Aïna, Aïna. À nouveau, il faut bien se représenter ce qu'est ce mot, parce que c'est très fréquent. C'est un mot vieil avestique. C'est un mot vieil avestique. Il n'a pas d'équivalent dans l'Yasna Haptankaiti, dans la partie Yasna Haptankaiti du vieil avestique, en fonction de cette caractéristique sur laquelle, dont nous avons déjà parlé, qui est que le Yasna Haptankaiti ne fait aucune allusion au versant négatif. Donc le mot n'est pas haptahatique, il est exclusivement gatique. Il est plus fréquent dans la gatha Hudavaiti, beaucoup plus fréquent que dans les autres gatha. Il n'existe plus dans l'Avesta récent, sauf dans cette partie du Homestone qui a pour caractéristique d'utiliser un certain nombre de mots qui n'existent plus dans le reste de l'Avesta récent. Il semble que le Homestone utilise un vocabulaire relativement archaïque. Ce n'est pas le seul mot qui, à cet égard, que l'on puisse définir comme ça. C'est un mot qui, étymologiquement, ne fait pas de difficulté, puisqu'il correspond au sanskrit védique « enas ». Le terme va se faire insistant, on le trouve dans l'astrophe 6, il est répété jusqu'à la strophe 8, jusqu'à 6, 7 et 8, le mot « enas ». Il est mentionné avec insistance. Vous voyez la strophe 6, il y a beaucoup d'enas. Les enas sont qualifiés de « pourous », ils sont nombreux. Dans les deux attestations de la strophe 7 et 8, le mot est marqué par un démonstratif. Au pluriel, ces enas. Donc le démonstratif insistant. Malheureusement, nous ne comprenons pas bien, et pour des raisons diverses. L'astrophe 6, le problème, c'est que c'est une de ces strophes, il y en a malgré tout quelques-unes, qui portent les marques d'un accident de transmission. Un accident de transmission que l'on peut observer, que l'on peut déceler, grâce à un certain trouble de la tradition manuscrite, mais aussi à cause de la traduction Pelvi. Quel que soit le sens de la tradition Pelvi, ce n'est pas son sens qui peut nous retenir à cet égard, mais on voit que le traducteur Pelvi ne traduit pas exactement le texte que nous avons. Et cela semble s'expliquer du fait que le texte que nous avons est abîmé. Ce n'est plus le texte que... Il a été déformé, il est abîmé, il a subi une détérioration, et nous ne pouvons pas malheureusement le restituer. Quant à la strophe 8, c'est un désastre. C'est un désastre parce que, souvenez-vous, nous avons consacré un colloque il y a un an et demi à ce personnage, le personnage de Hima. C'est la seule strophe d'Egata qui fasse allusion à un vieux mythe indo-iranien. La seule. Or, nous ne la comprenons pas bien. Là, ce n'est pas un problème de transmission. Je ne vais pas la discuter ici, même si la strophe est célèbre, parce que j'ai fait le choix de ne discuter que des problèmes à propos desquels on peut approcher d'une solution. Mais la strophe 8, ce n'est pas son cas. Ce n'est pas son cas parce qu'il y a quelque chose d'irréductible qui a été discuté dans tous les sens. Avec les solutions les plus improbables, n'est-ce pas, l'hémistiche B' est strictement incompréhensible, échappe à toute analyse. Il semble y avoir là le nominatif singulier du nom de la vache, gauche, un mot bagarre dont le statut reste, qui est le nom du dieu en principe, en iranien, ce serait sa seule attestation aussi en vieil avestique, le dieu positif, et un participe présent moyen, malheureusement formé sur un thème improbable, avec une voyelle longue, qui reste inexplicable. Donc je ne puis même pas faire une hypothèse. En tout cas, je m'en abstiendrai. Alors, le reste, il nous reste à traiter, c'est un hymne de 16 strophes, avec ça, la moitié reste à traiter. On peut discerner dans cette deuxième partie de l'hymne, on peut classer les choses en trois catégories. D'abord, il y a les acteurs. Quels sont les membres du pandémonium qui vont faire l'objet d'une remarque ou d'une malédiction dans les strophes qui suivent? Bien, dans la strophe 9, vous remarquerez le « douche sasti ». Le « douche sasti », mot qui n'est attesté que deux fois. Deux fois. Toutes les deux dans les gathas. C'est un mot gathique. Nous connaissons bien le mot « sasti ». Il existe. En principe, il signifie la définition. La définition. C'est dire ce qu'est quelque chose. Définir quelque chose. Quelqu'un qui, en principe, pour le traduire de manière tout à fait stricte, mais sans égard pour le contexte, celui qui fait de mauvaises définitions. Strophe 11. Déterminé par Drugvant, trompeur, un mot étrange. Ahou, ce n'est pas l'état d'existence, c'est un autre mot, puisqu'il a son féminin qui lui est directement coordonné. Il semble donc que ce Ahou 2, hein, un deuxième mot Ahou, définisse autre chose. On traduit par le maître, en général, personnage d'autorité, quelqu'un qui a du pouvoir, mais qui est mauvais. Aussi par pure étymologie, d'après le latin erus, qui lui aussi, pour les latinistes, n'est pas si clair que ça. Donc, méfions-nous. Quant à Anhui, c'est une dérivation en i du premier, du mot ahu masculin, donc c'est quelque chose que nous pouvons traduire, une désignation, comme nous trouvons nar, l'homme, nagri, la femme de l'homme, littéralement. C'est donc l'homme et son épouse. Donc, nous avons affaire ici à l'ahu et la femme de cet ahu, l'épouse de cet ahu. Nous voyons réapparaître dans la strophe 12 le mot « martan », l'autre terme péjoratif pour désigner les mortels. On dirait que ce « martan », d'ailleurs, fait le raccord, en quelque sorte, entre la première partie de l'hymne et la seconde, puisqu'il est à classer du côté d'Aïva Machia. Ensuite, on voit apparaître, pour trois strophes, ce qui est peut-être un nom propre. Peut-être un nom propre. Mais c'est un mauvais. Grehma, qui n'a pas d'étymologie obvie. Nous ne pouvons pas expliquer le mot, sa signification nous échappe. C'est un nom propre ou certains disent un sobriquet, quelqu'un que l'on désigne comme cela, mais qui est un personnage singulier et mauvais. Et enfin, avec la strophe 12 aussi, apparaissent les prêtres antagonistes. Nous ne sommes plus du côté des divinités. Nous sommes du côté d'un collège sacerdotal opposé à celui dont nous connaissons les noms propres. D'ailleurs, en principe, nous le savons parce que l'évocation des prêtres antagonistes est un schème obligé de toutes les gathas. Ça se produit une fois dans chaque gatha. Mais dans les autres gathas, cette évocation se fait directement avant l'énumération des noms propres. Avant de passer à l'énumération des noms propres, Zarathustra, Vishtaspa, etc., il y a une malédiction jetée sur les prêtres antagonistes. Il y en a trois catégories de prêtres antagonistes. Chaque nom n'est pas toujours mentionné. Certains sont plus fréquents que d'autres. Peut-être quatre. Nous trouverons ici le Karapan dans la strophe 12. Le Karapan et le Kavi dans la strophe 14. Ensuite, le nom de la fonction qui correspond à cette prêtrise. la fonction de cavi, la fonction de carapane, dans la strophe 15. Carapane, c'est un terme, il faut comprendre carpane. Le A ne compte pas métriquement, c'est une voyelle d'appui. Le deuxième A, il n'y a donc que deux syllabes, carpane. Pas d'étymologie claire. Cavi, nous le connaissons bien. Hein. Terme problématique. C'est le poète voyant, personnage tout à fait positif, sauf s'il est ambigu, dans le Rig Veda. Et c'est aussi un terme qui est utilisé pour définir la fonction de Vishtaspa, qui lui pourtant est positif. Voilà donc un terme qui est, il y a de mauvais kavi au pluriel, et il y a un bon kavi qui est Vishtaspa. Nous aurions donc intérêt à savoir véritablement ce que ce mot signifie dans la tradition iranienne très ancienne, n'est-ce pas ? Très ancienne. C'est un autre problème à nouveau dans l'Avesta récent et dans les livres Pelvi. Mais la situation vieille avestique, la voilà, très exclusivement. Une autre catégorie de prêtres réprouvés sont les Osidjes. Leur nom n'est pas mentionné ici. Il est mentionné deux fois ailleurs. Osidjes, qui semble correspondre à l'indien Ushidj. L'Ushidj indien, c'est le prêtre qui n'est pas spécialement mauvais, mais qui s'oppose à la pratique du Urdvich, avec Urtu en premier terme. Celui-ci, c'est celui qui sacrifie en observant des temps rituels précis. Remarquez que les prêtres avestiques sont par excellence ceux qui font cela. Ils se soumettent, c'est l'évidence, et dans l'Avesta récent, mais aussi, comme nous le savons dans l'Avesta ancien, ne fût-ce que par la toute première strophe, la Unavahiriya, ils se soumettent, ils observent des ratous. Ils observent des ratous, c'est-à-dire des temps rituels précis qu'il ne faut pas manquer. Lushitch, au contraire, semblerait indiquer que c'est celui qui sacrifie comme il veut, ouch vouloir. Comme il veut, c'est-à-dire sans observer de temps rituel précis. Hein ? Il faudrait plutôt dire quand il veut. Si cette étymologie est correcte, Lushitch est bon. Il s'agit peut-être, ici nous avons une idée un peu plus particulière de ce que l'on reproche à ces prêtres, n'est-ce pas ? C'est de ne pas observer les ratous. C'est une pratique qui consiste à sacrifier sans tenir compte de temps rituel. Quatrième, c'est le Maghavan, je pense. Hein, nous en avons parlé plus exactement au séminaire. Le Maghavan, mentionné deux fois, le Maghavan semble être aussi un prêtre réprouvé, associé lui aussi aux malédictions qui vont de pair avec l'énumération des noms propres. Et si je voulais me livrer à une petite provocation ou me laisser aller à une audace peut-être irréfléchie, je me demande si ce n'est pas la variante dialectale vieille avestique du nom des mages. C'est pas peut-être. Ce n'est pas exclu. On peut voir les choses comme ça. L'Avesta qui est réputée ne jamais faire mention des mages, sauf dans l'Avesta récent, une fois elle est énigmatique. Peut-être que les Gathas, elles, le font. Mais c'est avec une variante de dérivation. Van au lieu de ou, comme suffixe. C'est une possibilité. Mais nous ne pouvons rien tirer de cette observation-là. Alors, voilà cela pour les acteurs. Voilà les antagonistes. Alors, quelle est l'action que ces acteurs entreprennent ? Eh bien, deux verbes sont répétés avec une certaine fréquence dans toute cette seconde partie de l'hymne. C'est d'une part le verbe « mard ». Nous avons l'équivalent védique, donc nous le comprenons relativement bien. J'ai traduit par « affaiblir » dans le texte que vous possédez ou que vous voyez. Traduit par « affaiblir », parce que la traduction littérale de ce verbe est un peu difficile à introduire dans le contexte, mais nous devons la connaître afin d'essayer de comprendre plus ou moins ce dont il est question. C'est rendre mou, hein ? C'est rendre mou, amollir quelque chose que marde. Murtnati en indien. Alors, il y a un problème avec le second verbe. Le second verbe, lui, n'a pas d'étymologie indo-iranienne. Verbe rare. Verbe vieillavestique, attesté lui aussi de manière privilégiée dans la première gatha, la gatha Hunavaiti. Alors, comment approcher du sens de ce verbe? Eh bien, peut-être parler. On peut bien sûr consulter la traduction Pelvi, qui donne « rech », déchiré. Mais ça suscite quelques méfiances, parce qu'il semble que le traducteur n'a pas, lui non plus, identifié correctement ce verbe et qu'il l'a rendu avec une sorte de parenté sonore avec le verbe de départ. Bon, cela c'est une chose. Une autre étymologie est de lui rapporter une étymologie indo-européenne consiste à lui rapporter le verbe grec arneomai. Arneomai, c'est renoncer à quelque chose. Donc la traduction de ce verbe est relativement conventionnelle. La traduction que vous avez signifie s'éloigner, prendre ses distances, etc. Et cette distance est prise vis-à-vis de la bonne triade, d'une part, des bonnes entités, d'autre part, c'est une constante dans ce passage. Alors, envers quoi les actions négatives sont-elles entreprises? Eh bien, deux mots aussi sont utilisés avec une certaine fréquence à partir de la strophe 9. D'une part, le mot « strava », dont nous avons déjà discuté, et je vous ai fait part de mon scepticisme actuel vis-à-vis de mon ancienne hypothèse qui consistait à y voir le nom que les gathas se donnent à elles-mêmes, car le mot gatha n'est attesté que dans l'Avesta récent. Comment ce texte se nomme-t-il lui-même? Ça, nous n'en savons strictement rien, si ce n'est peut-être Srava. C'est un Srava, Shravas, hein, dans le sens kriveidique, ce n'est pas difficile. Ça peut être le nom de l'hymne, peut-être bien. En tout cas, c'est un sens, en tout cas, dont il faut tenir compte, y compris dans cet hymne. Il est évidemment incontestable, ce sens-là, dès lors que le mot est objet d'un verbe de récitation. Augeda, avec le terme augeda, par exemple, dans le Yasna 32, où il est question, le Yasna 32-10, on vous dit que... Regarde, le terme sravor, les hymnes, il affaiblit les hymnes. Celui qui dit augeda, celui qui dit achishtum, un mauvais hymne, pour voir de ses yeux la vache et le soleil. Bon. Srava donc est un nom possible de l'hymne, mais c'est aussi peut-être simplement un terme qui désigne la rumeur. Il fait partie de ce... Nous allons dire un mot de cela bientôt. Djiatu, traduction par subsistance ou force de vie. Subsistance ou forme de vie. Nous pouvons, avec un très grand degré de probabilité, comprendre ce qui est entendu par là dans ce contexte-ci. J'en reviens à la strophe 32.5, où les devas sont accusés de leurrer le mortel, machine, au sujet de l'immortalité et de la hujiati. Hujiati est la variante de djiatu, c'est sa variante de composition. Avec hu, bon, degré plein du verbe vivre. Mais la composition provoque la substitution du suffixe. Le suffixe « ti » est le suffixe de composition du verbe « vivre », tandis que le mot simple est formé avec le suffixe « tu » qui, par ailleurs, pourtant, n'est pas extrêmement fréquent en avestique, en général. Les noms en tout représentent, par rapport aux védiques, une catégorie relativement pauvre. Ils ne sont pas inexistants, loin de là, ils sont bien attestés, mais ils ne sont pas d'une fréquence, équivalente à celle de l'Indien. Quant à ce que cela représente, ce que représente Jatu, ce que représente Jati, le Yasna 32.5 nous permet de le saisir, je pense, n'est-ce pas ? Il s'agit de ces quatre forces qui sont finalement les forces d'immortalité. Ces forces culminent dans le terme « amrutat » que nous avons ici et qui est l'immortalité. Les trois autres étant des forces qui approchent en quelque sorte de l'immortalité, qui ne sont pas encore l'immortalité réelle, « urvatat » qui est le fait que le corps est entier. C'est la manière dont on dit la santé, en vieil iranien, c'est l'intégrité du corps. Et d'autre part, tavishi, c'est être fort, c'est la force. La force au sens le plus physique du terme, on est fort. Aspect de la santé aussi. Et utayuiti, c'est la jeunesse persistante, être jeune. Être jeune de manière durable. Et bon, c'est une, vous voyez, ce sont trois forces qui convergent en quelque sorte vers la. Si elles se réalisent pleinement dans la notion d'immortalité. Or, voilà ce qu'est le jhatu. Affaiblir le jhatu, abîmer le jhatu dans le reste de l'hymne, eh ben c'est évidemment exercer une action négative envers cette constellation de forces qui se réalise finalement dans l'immortalité. Voilà donc comment se présente cet hymne entièrement, ce chapitre, pardon, entièrement consacré au versant antagoniste des bons sacrifiants, dont la présentation maintenant commence à se faire lointaine, dans le premier chapitre. Nous avons vu que cet antagonisme, eh bien, il va s'évaporer. Il s'évapore dans la strophe 15. Vous savez, la strophe 15, on voit que Vitnas, les fonctions de Kavi et de Karapan, nous dit-on, bien, ceux qui ont cette fonction sont éliminés par ceux qu'ils veulent empêcher de disposer à volonté de la Jhatu, donc des forces de vie, et que ce soit ceux-ci, ceux qu'ils veulent empêcher, qu'ils soient portés plutôt qu'eux dans la maison de la bonne pensée. L'élimination de l'antagonisme, à quoi cela correspond, je ne sais pas, bien sûr, mais l'antagonisme est résolu. Le problème subséquent, c'est la strophe 16. Je ne l'ai pas traduite parce qu'elle est strictement intraduisible. Ce serait une malhonnêteté intellectuelle de prétendre même formuler une hypothèse. Alors je préfère ne pas traduire. Il y a peut-être deux ou trois strophes dont c'est le cas dans les Gatha, mais il ne faut pas. Ce serait. Bon, je préfère laisser pratiquer cette solution. On a dit que c'était une solution de couardise, mais bon, écoutez. Non, je ne puis véritablement faire aucune hypothèse sur cette strophe-là. Heureusement, la strophe précédente nous a signalé que l'antagonisme était en voie de résolution. Il ne sera pas achevé tout de suite. Il y aura une dernière opération. Elle est présente dans l'hymne 33, n'est-ce pas ? L'hymne 33-4. Dans l'hymne 33-4, les antagonistes ne sont plus présents. Mais il s'agit, comme nous l'avons vu d'ailleurs lors du cours de l'an dernier, de purger les cercles de l'appartenance sociale qui s'étaient constitués autour du feu, rappelez-vous. Il s'agit de purger ces cercles en quelque sorte du mal qui leur est intérieur. Il ne s'agit non plus d'un groupe antagoniste, mais d'une sorte, non plus d'un ennemi extérieur, comme l'on dirait aujourd'hui, mais d'un ennemi intérieur. Et alors, cela fait, cela accompli, eh bien, on peut en venir réellement au sacrifice proprement dit, à la libation de Hauma, en vérité, à à la libation de Hama et à l'offrande carnée, comme nous l'avons vu l'an dernier. Car nous avons désormais opéré la jonction avec le cours de l'an dernier. Nous sommes arrivés avec la résolution de l'antagonisme au moment sacrificiel que nous avons analysé lors du cours précédent. La partie blame est terminée, l'antagonisme s'est résolu, l'ennemi extérieur d'abord s'est évaporé, Vinas disparu, et nous avons par le sacrifice écarté le mal intérieur à nos propres cercles d'appartenance sociale. Dès lors, on peut sacrifier. Le sacrifice, les deux offrandes peuvent avoir lieu. Bien, alors je voudrais voir que ceci se traduit de manière extrêmement nette par un retournement de l'antonymie. Souvenez-vous, la strophe 32.3, qui représente le début du discours que Ahura Mazda tient aux Devas pour leur dire qu'ils n'agréent pas leur sacrifice, présente une situation d'antonymie avec la strophe 2, n'est-ce pas ? On dit, quelles sont ces antonymies ? Eh bien, la mauvaise pensée, akat mananko, par opposition à la bonne, vohu mananka dans la strophe 2. Bien sûr, la drudge, par opposition à l'agencement, à cha, cha dans la strophe 2, drudjas cha dans la strophe 3, et en opposition à armaïti, la pairimaïti, la négligence. Au lieu de la pensée adaptée, la pensée négligente, parimati. Bien, le renversement de l'homonymie se produit entre la strophe 4, consacrée à l'ennemi intérieur, et la strophe 5, qui est la première du moment sacrificiel, où nous voyons asrushti, donc le fait d'être sourd, de ne pas entendre ou de ne pas vouloir entendre, s'oppose à srausha, l'effort pour entendre, le bruit que nous faisons, ou la mauvaise pensée, akum mano, s'oppose à la bonne, vankush mananko, ou la tare maiti, c'est quasi un synonyme de pairi maiti, c'est la pensée qui ne tient pas compte, qui va s'opposer à armaiti. Et la drudge aussi qui s'oppose à l'agencement, achat A. Donc l'antonymie est renversée et les mauvaises caractéristiques du culte sont remplacées par les bonnes. Je voudrais faire, avant d'abandonner la question de l'antagonisme, je voudrais encore faire deux remarques. Si nous observons le cours général du chapitre 32, nous voyons aussi se dessiner un certain type de processus qui nous rappelle en résumé, en raccourci, le processus qu'a observé jusqu'ici la gatha tout entière. Est-ce un hasard si dans la première strophe, nous trouvons le verbe demander, yasat, comme dans la strophe 28. N'oublions pas que la strophe 28 est caractérisée, se définit elle-même comme un yana, verbe ya, verbe ya que l'on trouve dans le mot yana ou dans le verbe yasat. Demander, c'est une demande. C'est comme cela que se présente la première strophe. Ensuite, 32.5, nous en avons beaucoup parlé dans cette analyse parce qu'elle est très claire et elle nous permet certaines réflexions. Bien, cette strophe 5, c'est tout de même le rassemblement de la mauvaise triade le rassemblement de la mauvaise triade du comportement rituel, la pensée, la parole et l'action, sous l'égide du Mainyu, et avec pour objectif l'immortalité. Ce que nous ont expliqué progressivement depuis le Yasna 36, la strophe des deux Mainyu, et de leur importance pour faire le choix d'un comportement adéquat, et d'autre part, certaines strophes dans l'appel à répondre à des questions que l'on adresse à Wamazda dans l'Yasna 31, ces strophes nous ont expliqué que ce qui était finalement le but du sacrifiant, c'était d'établir une union, sar, sar, S-A-R, c'est le verbe, union, avec les forces de l'immortalité. La santé, la force, la force et la jeunesse et l'immortalité. Donc, en raccourci, nous avons ici le Mainyu, la triade et la finalité sacrificielle. Oui, Ahura Mazda a parlé au sacrifiant dans le Yasna 31, parce que le sacrifiant lui a demandé de parler lorsqu'il l'a interrogé. Il a fini par parler et le transfert de connaissances a eu lieu. C'est à ces notions que le chapitre 31 était consacré. Donc, l'opération d'échange oral a réussi. Le transfert de savoir est passé de la divinité au sacrifiant. Le Dieu a parlé et il a bien parlé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Dans le Yasna 32, au contraire, Mazda va leur dire des akars, des mauvaises choses. C'est la strophe 12. J'ai traduit par dire des injures. Ici, la divinité parle aussi, mais ce n'est pas pour transmettre le savoir. C'est pour le refuser et pour injurier. Donc, le processus sacrificiel en raccourci a lieu. Et alors, nous avons la strophe 14, autre strophe célèbre, qui est, je vous ai proposé une traduction. Je ne vais pas commenter toutes les difficultés, je ne la garantis pas. C'est la seule précaution que je puis prendre. Il y a, pour arriver à cette traduction, c'est une strophe difficile, pour arriver à cette traduction, il faut faire un certain nombre d'hypothèses, et certaines hypothèses qui ne sont parfois que des conjectures très incertaines. Mais c'est une strophe célèbre, ben vous voyez bien pourquoi. C'est que si on la prend seule, comme on le pratique en général avec les strophes chaotiques, l'impression que l'on en retire est que c'est la condamnation du hauma, bien sûr, la condamnation du pressurage et la condamnation du sacrifice sanglant. D'où cette idée, cette hypothèse, à mon avis, parfaitement absurde sur la nature du mazdéisme, du zoroastrisme, si vous voulez, qu'il faut y voir une répudiation de l'usage de la niqueur enivrante Hauma et du sacrifice sanglant. Elle est fondée essentiellement sur cette strophe, oui, aussi pour le sacrifice sanglant, sur le Yasna 29, comme nous l'avons vu, mais les deux ingrédients sont réunis ici de manière frappante. Or, si nous ne nous trompons pas, la libation de Hauma et le sacrifice sanglant vont avoir lieu, mais dans le Yasna 33, pour le Hauma, dans l'Yasna 34, pour le sacrifice sanglant. Ici, c'est l'aboutissement du mauvais sacrifice projeté par les Daiva et leur clergé, ou les hommes qui sont entraînés dans leur erreur, n'est-ce pas? Et voilà, ils aboutissent eux aussi, dans les ultimes strophes, c'est l'ultime strophe avant la dissolution de l'ennemi, la strophe 15, eh bien, ils arrivent eux aussi à ce moment qui est le moment final de la gatha et qui est l'offrande de Hauma et de sacrifice sanglant, mais elle est condamnée, n'est-ce pas ? Nous avons l'impression que ce que nous raconte, en raccourci, le Yasna 32, c'est un échec sacrificiel. C'est un échec sacrificiel, n'est-ce pas ? Qui est introduit d'une certaine manière dans la réussite sacrificielle que nous raconte, elle, la gatha tout entière, la gatha Vunavaiti. Alors, on a dû en passer là. L'Agatha Hunavaiti, pour nous raconter cette réussite sacrificielle, nous a, à un moment donné, raconté un échec sacrificiel. Un échec sacrificiel d'un panthéon et d'un clergé antagoniste. Alors, je voudrais à cet égard faire cette réflexion. Le yasna récent a des variantes qui sont dépendantes du moment sacrificiel, du hortu, du ratu. Or, ces variantes, par chance, nous en connaissons une, parce que certains manuscrits du yasna sont fondés sur elle. C'est la variante dite du Videvdat Sade. Alors que le yasna, tel que les autres manuscrits nous le présentent uniformément, unanimement, est un rite. Le yasna 1 nous l'explique, les 8 premiers chapitres, d'une manière générale, du yasna nous l'expliquent, sont un rite havani, c'est-à-dire un rite qui commence au matin. Mais les manuscrits du Videvdat Sade, dits du Videvdat Sade, qui sont moins nombreux, nous présentent le rite de manière un peu différente. Nous présentent le rite sous sa forme, la forme qu'il a lorsqu'il est Ushahina. C'est le nom de l'aurore, mais l'aurore est le point d'arrivée. Et donc le rite qui commence à minuit. Qui a pour but de permettre de... Donc, qui va nous mener au lever du jour et au matin. Si nous ne nous trompons pas, c'était l'objet du cours de l'an dernier, la Gata Hunavaiti aussi est un rite Ushahina. Elle commence à midi et les offrandes essentielles, la libation Tauma, le dépôt de graisse animale dans le feu auront lieu quand l'aurore sera levée, quand l'aube aura paru. Donc, du point de vue du hurtu, du point de vue du temps rituel, la Gata Hunavaiti se situe, comme le yasna récent, dans la version du Videvdat Sade. Or, ce Videvdat Sade a reçu son nom parce que, justement, ce qui le caractérise du rite havani, du rite matinal, c'est l'insertion du texte Videvdat. Le texte qui tient, ce qui signifie son titre, hein, c'est un livre entier de l'Avesta que nous possédons, mais ce qui justifie son titre doit être compris comme le texte, la loi, la règle, la disposition, data, qui tient les daiva à l'écart, vie à l'écart, daiva, les démons, data, disposition. Donc, les dispositions qui tiennent les démons à l'écart. Le texte du Videvdat est inséré, la plupart du temps, entre les chapitres des Gathas, dans le rite Ushahina. C'est frappant, n'est-ce pas? Parce que cette insertion du Videvdat joue très exactement le même rôle que le chapitre 32, que la Haïti 32, dans le rite de la Hunavaiti Gatha. Mon hypothèse, l'hypothèse que je... Ce n'est même pas une conjecture, c'est une forte probabilité qu'il en soit comme cela, n'est-ce pas? C'est que le texte du yasna récent est, comme toujours, une adaptation dans un autre cadre liturgique de ce que la Gatha Hunavaiti représente dans le corpus de l'Avesta ancien. La Gatha Hunavaiti est exactement construite comme ça, ne procède pas à des intercalations, c'est pas, elle a créé son propre texte. Mais entre le moment où la préparation du feu rituel est accomplie et le moment où l'on va entreprendre les deux offrandes d'immortalité, Hauma et Cher, eh bien, il faut réciter un texte, qui tient les démons à l'écart. On a vu comment ce texte est conçu. C'est la seule gatha qui le fait. Il y a des allusions aux, aux daivas et aux hommes dans les autres gathas, mais ce ne sont que des allusions, ce ne sont que de brèves et rapides mentions. Il n'y a pas un développement qui consiste à dire en quoi ils sont mauvais et en quoi leur action est négative et en quoi il faut s'en séparer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà la remarque que je vais faire. Je voudrais aussi attirer votre attention sur l'usage qui est fait du verbe « sru » dans la Haïti 32. Ici, l'hypothèse est plus floue. Elle demande à être précisée. Mais l'insistance qui est mise sur le verbe « sru » au passif, c'est-à-dire « être entendu », la forme étant le plus souvent « sravi », mais nous en avions déjà un avant-goût dans le Yasna 33, avec les deux manioux. Hein, ils ont été entendus tout au long du sommeil, nous dit-on. Hein, être entendu, d'une part, et d'autre part, le mot « srava ». Le mot « srava ». L'hymne, parce que c'est un bruit parmi les autres, mais peut-être aussi simplement parfois la rumeur. Alors, je suis obligé ici de me poser la question de savoir en quoi tout de même, quelle forme pratique, visible, concrète, prend la situation d'antagonisme? Que se passe-t-il en réalité pendant la récitation de ces textes? Je n'ai pas les moyens de savoir, vous avez les traductions, fussent-elles conjecturales, on peut se rendre compte tout de même que nous n'avons pas affaire à des textes descriptifs. C'est un développement que je ne puis pas mener très loin. Mais je m'interroge tout de même sur sa possible théâtralité. Le seul point, souvenez-vous, où nous avons perçu un petit élément de mise en scène, de dramaturgie, c'est la strophe 32 qui précède l'évocation des Mainyu, et où il est question d'éveiller les hommes, d'éveiller les sacrifiants, n'est-ce pas ? Puisque nous avons affaire à un rite qui commence à minuit, que l'on va commencer à s'agiter autour du feu, eh bien peut-être y a-t-il un mime d'éveil. C'est possible. C'est le seul point un peu concret que l'on peut détecter. Mais quelle est la mise en scène de l'antagonisme ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Vous voyez bien que où cet antagonisme demeure abstrait et fictif, je le crois avec peine, il ne peut pas être purement verbal. Y a-t-il un double feu ? Y a-t-il un mauvais feu rituel ? Peut-être. Ou y a-t-il une démonisation réversible ? C'est une possibilité que le rituel védique nous permettrait d'envisager. Une démonisation réversible, ponctuelle, du feu domestique qui brûle la nuit, pour lui opposer un autre feu, et qui est le feu du rite, le feu sacrificiel. La distinction indienne entre le feu Gurya et le feu Shrauta du sacrifice, n'est-ce pas ? Ce sont des possibilités que l'on peut envisager, mais là, nous sommes devant le mur de l'inconnaissable. Je ne peux pas vous offrir une hypothèse, mais je me pose la question, je me la pose grâce à vous, de plus en plus, de savoir s'il n'y a pas tout de même dans les gathas un fort élément visuel qui nous échappe parce que simplement le texte l'accompagne, le commente d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Ce qui nous fait évidemment penser à cela, ce sont les deux dernières gathas, les gathas en un seul chapitre. J'ai cru longtemps que c'était justement un trait qui était lié à leur brièveté, n'est-ce pas ? Que d'en faire des petits textes accompagnés d'un certain mime, hein, puisque la Gatha 51, la Yasna 51 que nous lisons au séminaire, nous avons vu qu'il y a des allusions au sort de l'âme et à cette rencontre des deux âmes. Il semble que ce soit peut-être un rite qui raconte d'une certaine manière, qui évoque par sa dramaturgie les événements qui conduisent une âme après la mort, l'âme au paradis. Nous avons commenté au cours même le Yasna 53, qui est un mime d'union sexuelle mythologique, qui traduit évidemment l'union de l'aurore et du soleil, n'est-ce pas ? C'est possible que... Mais n'en est-il pas comme cela aussi dans d'autres gathas comme ici ? Ce qui serait ici le sujet du jeu du mime, ce serait la dispersion des forces mauvaises. Hein, la dispersion des forces mauvaises avant le sacrifice. Voilà, ce sont... mais alors, le rôle que joue dans ce mime le bruit, Strava, le fait d'être entendu, n'est-ce pas, il semble que la compétition entreprise est une compétition pour se faire entendre. C'est une compétition pour se faire entendre. Je vous rappellerai, alors que le sacrifice, le véritable sacrifice, vient de commencer, la strophe 33.7. La strophe 33.7, où il est question de... donc, grâce à Asha et à Vohumana, nous dit le deuxième vers, par Asha et par Vohumana, donc par l'agencement et la bonne pensée, par quoi je suis entendu, srouillé, à nouveau une forme passive du verbe entendre, je suis entendu par eux, plus loin que le Magavan, le mauvais prêtre Magavan. Donc ma voix a porté plus loin, le bruit que j'ai fait, le bruit que mes pressoirs à Soma ont fait, le bruit de mes hymnes, n'est-ce pas, a porté plus loin que celle de mes antagonistes. C'est ce que constate la strophe 33.7. Donc peut-être est-ce fondamentalement le bruit qui constitue la théâtralité du rite dans ce cas-ci. Alors voilà, je voudrais encore répondre peut-être à une petite question avant la fin de cette heure où nous avons traité finalement de l'antagonisme. Nous consacrerons l'heure prochaine, qui sera la dernière, à en venir tout de même à la question, à essayer de faire le point sur la question du monothéisme. Là aussi, je voudrais l'aborder d'une autre manière que celle qui a été entreprise, je ne veux pas dire seulement par mes collègues, mais aussi par moi-même. Nous aborderons cela aussi dans une autre perspective. Avant, je voudrais tout de même vous exposer, pour compléter un peu ce que j'ai dit aujourd'hui sur le ratou, la problématique du mot « ahou », l'état d'existence. L'état d'existence, c'est un mot relativement fréquent, sauf dans une gatha, la gatha Spenta Mainyu, la troisième. La troisième gatha ne mentionne que trois fois le mot « ahou ». On dirait que pour cette gatha, le mot a perdu son importance. Comment les choses se présentent-elles ? Bien, naturellement, il y a une série d'usages qui ne nous apprennent pas grand-chose, hein, où le mot « ahou » apparaît dans le texte, mais simplement sans qualification, sans aucune qualité particulière, dans une perspective qui n'est pas très informative pour nous. Mais, en tout cas, il semble y avoir, c'est-à-dire deux fois et demi, nous observons le même processus. Dans deux gathas, la première et la deuxième, l'invocation initiale, très tôt dans la gatha, Yasna 28.2, deuxième strophe de la première gatha, Yasna 43.3, troisième strophe de la deuxième gatha, eh bien, ce que l'on invoque, c'est un double ahou, les deux états d'existence. Ce sont les deux seules fois que les gathas font allusion à cette dualité. L'état de pensée, l'état mental et l'état osseux fait qu'il y a deux états d'existence, que les choses ont une double nature, la mentale et l'osseuse. Or, cette dualité est permanente dans deux textes vieillavestiques. C'est-à-dire que le mot « ahou » n'est utilisé, n'est mentionné que dans cette seule perspective, dans le Yasna Haptankaiti. Chaque fois que le Yasna Haptankaiti mentionne « ahou », c'est pour exposer cette double nature. Et dans le Yasna 53, la dernière gatha, les deux attestations du mot « ahou » dans le Yasna 53 sont aussi une expression de la double nature. Donc, cela c'est le départ pour l'Agata Runavaiti, l'Agata Ushtavaiti, le double Ahou. Et on arrive, ça nous savons déjà, nous l'avons observé, trois fois là-bas, c'est pour ça que j'ai dit deux fois et demi, dans les trois gathas polyhatiques, donc celles de plusieurs chapitres, eh bien, c'est le résultat du sacrifice, l'Ahou est devenu Fracha. Fracha. Sa caractéristique est d'être Fracha, c'est-à-dire parfait. Notre état est parfait. Le sacrifice a réussi, il est terminé, l'état, l'Ahou, est devenu parfait. Alors, le reste, bon, nous voyons bien que de manière substantive, n'est-ce pas, ou de manière qualificative, le mot Ahou peut avoir trois particularités. Il peut être Paourouya. C'est fréquent, relativement fréquent dans la première gatha. C'est la première gatha qui adopte le plus fréquemment cette perspective. N'oubliez pas, depuis le Yasna 28, sa dernière strophe, il faut que l'Ahou, l'état premier, se constitue. L'état premier se constitue, et cette idée réapparaît plus loin dans le texte, dans le Yasna 33.1, au moment où le sacrifice, le moment sacrificiel va commencer. C'est en fonction, nous dira le texte, des dispositions de l'état premier. Donc c'est une notion importante que l'état soit premier selon l'Agata Runavaiti. Une autre notion, c'est la notion de Vaishta. Cet état peut être très bon. Ça, cette notion se trouve mentionnée dans l'Agata Runavaiti, mais dans l'Agata Ushtavaiti. L'Ahou peut être très bon. En avestique récent, déjà, simplement, le mot Ahou Vaishta va désigner l'état des bienheureux, l'état au paradis. C'est l'état des âmes du paradis. Mais en vieil avestique, nous ne savons pas si c'est le cas. Alors, bien sûr, il y aura dans le Yasna 51, il y a la notion d'apema, qui, bien sûr, est antonyme de Paourouya, c'est ultime, le dernier état. Ou même, nous dira le Yasna 51, c'est le dernier tournant, l'ultime tournant, apema urvaïsa, de l'Ahou. Alors, je vous inviterai, vous savez, je crois que l'on pourrait représenter, et nous terminerons là-dessus, schématiquement, les choses de la manière suivante. L'Ahou peut être Paourouya. Lorsque le Maïnyu intervient, il sera Vahishta, ou il sera Achishta. Très bon ou très mauvais. Très bon, bien sûr, pour les bons, et Achishta pour les antagonistes. Mais dès lors que le chemin s'arrête là pour eux, pour les antagonistes, hein, on va leur régler leur compte, hein, eh bien, cet état très mauvais est déjà Apema. C'est ce que nous dit le Yasna 30, n'est-ce pas? Au début, nous dit-on, les deux Manus rencontrent, et le résultat, c'est qu'à la fin, pour les mauvais, leur état devient Achishta, immédiatement. Donc les choses se terminent ici, du côté antagoniste. Et, semble-t-il, l'état Vahishta, pour les bons, va devenir Fracha. Fracha. Ou bien, dans la perspective du Yasna 51, les bons se trouveront au dernier tournant de l'Ahou. Je ne sais pas ce que représente exactement ce schéma, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr qu'il faille le mettre pour le vieil avestique dans la perspective de l'eschatologie et de l'accès au paradis. Sauf peut-être dans l'usage qu'en fait l'Yasna 51, parce que c'est son sujet même. C'est de nous représenter les événements de l'après-mort. Par conséquent, avec son dernier tournant de l'Ahou, il est très probable qu'il veut nous dire, voilà, c'est la fin, n'est-ce pas? C'est la fin de l'Ahou terrestre, et voilà ce qui se passe lors de ce dernier tournant. Désormais, l'Ahou ne changera plus, puisque la personne est morte, n'est-ce pas? Le problème pour elle sera d'accéder au paradis. Il est possible que par Apema ou Vaisa, ce soit la mort et la nuit, car les événements qui doivent se produire pour que l'âme quitte le cadavre et accède au paradis, ce sont des événements nocturnes, n'est-ce pas? Ce sont des événements nocturnes. Alors, je pense que l'on peut, dans cette manière, peut-être interpréter Ahou comme l'état des choses entre un Pauruya, c'est-à-dire l'aurore, l'état des choses à l'aurore. Gata Hunavaiti, c'est un rite auroral, comme nous venons de dire. L'Ahou devient Vahishta lorsque le soleil est au zénith. La dernière gata, nous n'aurons pas le temps de la commenter, mais c'est un rite qui, contrairement à celui de l'Ahou Navaiti qui mène à l'aurore, ce rite-là, lui, mène au zénith, au soleil. Le soleil a son zénith que le sacrifiant voit dans l'avant-dernière strophe, juste avant celle pas qui nous dira que le monde est devenu frachat, que l'Ahou est devenu frachat. Donc peut-être l'état des choses au zénith, et puis ça c'est l'ultime réussite sacrificielle, tandis que l'apema et la fin catastrophique de quelque chose, soit la nuit ou la mort. Mais je ferai cette hypothèse à propos du mot Ahou, et je vous laisserai sur cette hypothèse. Je sais qu'elle est un peu vague, c'est pour cela que je ne vous y ai pas consacré trop de temps, mais je voulais tout de même la tenter. Alors, donc, la semaine prochaine, je vous remercie, mais la semaine prochaine, nous tenterons de faire le point sur la question du monothéisme. Et puis aussi, peut-être brièvement, sur la doctrine des millénaires, parce qu'il faut aussi en dire un mot. Je vous remercie.